Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec Morgane Gadignan, avec Jérémy Crédit,
oui,
Florence Mendès, Tanguy Passuro, Daniel Morin.
Bravo, Daniel.
Et nos invités sont Sylvie Piala et Xavier Beauvoir.
Bravo.
J'aime déjà.
Sylvie Piala qui vient avec Xavier Beauvois nous présenter l'Albatros, réalisé par Xavier Beauvois, produit par Sylvie l'Albatros. Piala avec Jérémy Régnier entre autres. On va jouer petit blind test autour de l'Albatros. De quoi peut-il être
des oiseaux.
Question
oiseaux,
ouais. Premier titre.
Mieux que cette histoire.
Tanguy. Oh.
Non. Tanguy.
Dominica.
On imagine.
Ouais. Donc c'est sur le silence des oiseaux.
Le courage.
Le courage.
J'adore cette chanson.
Moi aussi.
Si mal quand elle a commencé. Si bien. On imagine.
Ah, j'adore.
Si seulement nous.
Ah,
nous avions le courage des oiseaux.
Vous pouvez laisser en entier, vous croyez ?
Ah ouais. Ok.
Deuxième titre.
Tanguy au hasard.
Ouais.
Michel Fugain.
Quel titre ?
Bah,
et non.
Bah non.
Comme Daniel.
Ah non, oh, Myriam.
Bah,
bravo, bravo.
Ah, Marie Myriam.
L'enfant à l'oiseau.
C'est
le gagnant.
L'oiseau.
L'oiseau et l'enfant.
On entend parler à chaque fois à l'Eurovision, parce que c'est notre dernière grande gagnante en 77.
Depuis 77, on n'a rien.
Quelle belle année.
Troisième titre.
C'est pour ça que je déteste les autres pays.
Elle est
Olivia
contente.
Louise.
Non, ah. On dit son prénom d'abord.
Florence.
Olivia, alors.
Morgane.
Oui. Tom. Non.
Daniel.
Oui.
Non.
Pierre Perret.
Pierre Perret, Daniel.
Non, c'est pas lui qui chante à ce moment-là.
Si.
Voilà, c'est Génération Daniel.
Eh ouais.
Mince.
Pierre Perret.
Ah, j'ai rien. Je suis nul en volatile.
Oh non.
Ça vous rappelle les chorales en classe?
Ah ouais.
Oui,
je peux être en quatrième titre.
Daniel,
oui.
Compagnie créole.
Ah oui, ça fait. Ah oui.
Hey
fait... Le titre.
Ça fait rire les oiseaux.
Jérémy. Ah,
chanter les oiseaux. Ambiance.
Rire les oiseaux.
3 points pour Daniel.
Quand même.
1 point pour Tanguy.
Je suis toujours pas là. Elle est dans le rythme et tout. Un point pour Morgane.
Comment est-ce que ça fait chanter les abeilles hein.
Oula.
Morgane, Tom.
Daniel, Eric Morena.
Non.
Jérémy, commandant Cousteau.
Non.
Palmaref.
Oui.
Tous les oiseaux, tous les bateaux.
Mais oui.
Tous les bateaux, tous les oiseaux.
C'est quelle pub déjà ? C'est pour une assurance.
Tous les oiseaux, tous les soleils.
C'est beau.
Bravo Morgane.
Sur des goélands. Trouvez Polnareff.
Un point pour Morgane, un point pour Tanguy. 3 points pour Daniel.
Merci.
Très beau point, Morgane avec Polnareff.
Oui,
encore deux titres.
Tanguy. Tanguy.
Ah, alors, Régie, il faut m'aider. Daniel.
Daniel.
Morgane.
Là, mais Morgane n'a pas parlé. Morgane n'a pas parlé.
C'est Daniel.
Là, c'est
qui
non, moi,
pas
je veux bien.
Daniel.
Là, c'est mes comme Morgane.
Et calmez-vous, sinon je ne parle pas.
Michel Fugain. Là, c'est Michel Fugain.
Oh. Merci.
Bon, je m'ennuie.
Escroc. Voleur de points. Enfoiré. Fan de la
Chante
Mendes. Communiste.
Oh oui.
4 points pour Daniel. 1 point pour Tanguy. 1 point pour Morgane. Le dernier titre, le Super Banco, vaut 5 points.
It's like a bird. But
Nelly Furtado,
Florence. It's not a bird.
J'enlève des points si vous parlez.
Ah.
Oh là là.
Jérémy.
Morgane.
Ouais.
Philippe Catherine.
Non.
Monsieur Oiseau.
Oh oui.
Bah
oui.
C'est quoi ça?
Ah.
Bah oui.
Mister Oiseau. Et c'est une victoire.
Elle est belle.
C'est honteux. Et oui, de Morgane Gadignan.
Ah oui. Bravo.
Et on accueille nos invités Sylvie Piala et Xavier Beauvois, s'il vous plaît.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddou.
Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus dans la bande originale. Comment ça va ce matin?
Ouais, très bien.
Ouais, très bien. Vous venez nous parler d'un très beau film, Albatros, Xavier Beauvois, qui sera en salle mercredi prochain, un film que vous avez produit, Sylvie. On vous retrouve tous les deux à nouveau sur un nouveau film, puisqu'il y a eu les Gardiennes précédemment, déjà ensemble, et vous vous êtes dit, c'est suffisamment bien pour continuer l'aventure ensemble, c'est ça?
Ah ben moi je dis toujours j'ai une chance folle parce que c'est très rare qu'un cinéaste dise ça de son producteur ou sa productrice, mais travailler avec Sylvie c'est un délice, voilà, c'est un pur délice.
Et le sourire de Sylvie qui boit les paroles.
Et ça l'est réciproque Sylvie.
Ça l'est.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un de en dehors de son talent, j'entends, mais humainement, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites.
Ce très beau film avec Jérémy Régnier, avec Marie-Julie Maille, Victor Belmondo, Iris Brie, Geoffroy Séry, Olivier Pécri et puis la merveilleuse Poulette, Madeleine Beauvois. On va y revenir. Ce film, Xavier Beauvois, il nous plonge dans le quotidien d'un commandant de brigade de gendarmerie. On est à Étretat, on est chez vous. Lui, c'est Laurent, alias Jérémy Régnier, et tout va bien dans sa vie. Il prévoit de se marier avec sa douce et tendre Marie. Il a une petite fille. C'est idéal, on pourrait dire. C'est une vie simple, une vie douce. Lui, il a envie de se marier pour c'est son petit côté gendarme, hein, pour mettre la situation au jour, hein, pour que ça soit bien clair et bien net. Elle a moins envie, mais on est dans un couple comme ça où tout va bien. C'est la situation initiale et pourtant, très rapidement, c'est à travers son métier qu'il va être au contact au quotidien de la détresse. La détresse, et la détresse d'un homme, c'est celle d'un agriculteur qu'il connaît très bien, il connaît depuis très longtemps. On imagine qu'il a grandi dans le coin, que c'est un gamin du pays. Un agriculteur qui n'arrive pas à s'en sortir.
Oui, c'est ça, parce que moi je connais beaucoup d'agriculteurs et je sais leur souffrance, leurs problèmes. On ne s'en rend pas compte, mais il y a plus de 3000 fermes à vendre en France, comme ça. Les jeunes ne veulent pas reprendre forcément la ferme des parents, ou alors s'ils disent... On reprend la ferme et on arrête les vaches, quoi.
On veut partir en week-end, bah on veut partir en vacances. Mais
là, ne serait-ce que de partir en week-end.
On veut gagner notre vie aussi.
Oui, ça c'est dément. Ce qu'ils gagnent, c'est dément.
Vous le dites, 350 euros par mois dans le film. En tout cas, le personnage qui est en détresse, c'est ce qu'il dit.
Oui, il y a tellement d'investissements, de matériel. Et il y a des sociétés comme Lactalis qui font 20 milliards de bénéfices par an et qui achètent le lait limite moins cher que ce que ça coûte à produire.
Et qui tirent toujours les prix vers le bas, une espèce de chantage en plus.
Pas une journée sans qu'il y ait un suicide.
Il y a les Chinois qui achètent beaucoup de terres, donc ils proposent trois fois le prix de l'hectare. Donc il y a plein d'agriculteurs qui craquent, qui leur vendent. Donc bientôt on va avoir des champs de blé, mais le blé va aller en Chine et nous, on va devoir en importer. Enfin, c'est totalement aberrant. Quand je faisais le film Les Gardiennes, je savais qu'en 14-18, c'était 80% du travail en France, c'était l'agriculture et l'élevage, quoi. Maintenant, on est arrivé à un niveau, je sais plus, un pourcentage minable.
Oui. Et c'est un véritable agriculteur qui joue le rôle. Oui. Parce que c'est aussi ça, je trouve, ce qui fait aussi la réussite de ce film.
Et puis il est bluffant.
Il a une gueule incroyable. Ah ouais. Il est saisissant, il est attachant, on souffre pour lui. Il y a aussi d'autres rôles comme ça que vous avez distribués qui sont de véritables personnages que vous connaissez bien, qui vivent autour de vous. Cet agriculteur-là, je crois que tout est parti aussi de la lecture d'un article dans Society, Xavier Beauvois.
Oui, j'avais lu, c'est plusieurs choses, mais j'avais lu un article sur un agriculteur qui était en total burn-out aussi, qui a fini par péter un câble, quoi, et qui a foncé dans les gendarmes. Bon, le procès n'a pas eu lieu encore, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, peut-être qu'ils n'auraient pas dû tirer, mais enfin bref, il est mort. Et puis j'avais aussi vu, dans le même temps, je regarde beaucoup de documentaires la nuit, hein, des choses, j'avais vu un gendarme qui avait tiré dans la jambe d'un type qui allait se suicider dans la cour de son pavillon, et il a réussi son coup. Et il lui a sauvé la vie. Et la femme de ce monsieur a dit au gendarme, je suis bien content que vous lui ayez tiré dessus. Hein.
Parce que c'est ce qui se passe dans le film. Le personnage qu'interprète Jérémy Régnier, donc ce gendarme au grand cœur, en tout cas, il est tout de suite, on le voit, on a envie de l'adopter. Il est d'une tendresse folle. Il est gardien de la paix, en fait. Il est là pour protéger.
Oui, parce qu'il y a un glissement sémantique maintenant, parce qu'on parle beaucoup des forces de l'ordre. Oui. Enfin, les milices macroniennes, c'est plus des forces de l'ordre, mais plus les gardiens de la paix. Mais...
Et voilà,
moi j'ai des amis gendarmes, donc à un moment donné, je me suis mis à leur place. Je me suis dit, si moi je faisais comme ce gendarme que j'ai vu dans le documentaire, si je faisais ça pour sauver la vie de quelqu'un, et qu'à un demi-millimètre près, je touche l'artère, enfin je le tue, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait pour moi, en fait?
Et voilà, on est plongé dans ce drame-là, dans ce drame intime. C'est un accident, en effet, puisqu'il cherche à lui sauver la vie. Il tire, et on a d'ailleurs la sensation qu'il tire pas souvent, parce qu'en réalité, ce qu'il fait au quotidien, c'est pas ça. Il est plus de l'ordre de l'assistante sociale au quotidien, ce personnage, que de la force de l'ordre, comme on voudrait les caricaturer.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de policiers qui vont dire, ou de gendarmes qui vous diront, voilà, comme Morgan Freeman dans Seven, il dit, j'ai jamais sorti mon arme de toute ma carrière, quoi. J'ai jamais tiré une fois. C'est la grande majorité, on s'en sert jamais, quoi.
Qu'est-ce qui vous a séduit, Sylvie Piala, en acceptant de produire ce film? Qu'est-ce que vous a présenté, Xavier?
Bon, déjà, Xavier a quand même l'art du sujet. C'est-à-dire que c'est l'art d'avoir envie d'un sujet qui parle aux gens sans se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense qu'aujourd'hui, si on veut encore envoyer des gens au cinéma, il faut leur parler d'eux, en fait. Et disons, avec un peu plus de temps. Oui, il le fait très bien. Il le fait très bien parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a une humanité chez lui qu'on retrouve tout à fait dans ses films et qui... parce que là, c'est l'histoire d'une bascule de vie, en fait. Ce qui peut arriver... Là, il se trouve que c'est un agriculteur et un gendarme, mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir une bascule comme ça dans sa vie, et effectivement, d'être totalement désarçonné et de ne plus savoir, en fait. Et le film est quand même en deux parties. Et comment, finalement, on ne sait plus pourquoi on vit. Et donc... Moi, j'ai... Il me proposerait n'importe quoi, je le ferais sans doute.
Il y en a priori
c'est
tellement
pas sûr.
Positif.
Non. En fait, c'est pas vrai.
Je dois faire Gladiator 2, c'est possible.
Non, mais c'est un film qui est très émouvant. C'est un film qui nous permet, en effet, d'entrer dans l'intimité de personnes qu'on voit peu au cinéma aussi, dans leurs difficultés, dans la compréhension, par exemple, de ce que c'est que la vie d'un gendarme. Parce que même si l'accident qui se produit concerne cet agriculteur, c'est la vie du gendarme que l'on suit. C'est la vie de cet homme qui est rempli de bonnes intentions, qui se met à engueuler un gamin parce qu'il est chopé sur son scooter sans casque. Et qu'il menace qu'il pourrait le claquer tellement il est agacé, mais parce que simplement il voit la douleur. Et c'est lui qui ramasse ses corps, c'est lui qui va faire ses constatations. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une scène peut-être prophétique d'une certaine mesure. Un couple d'Asiatiques sur la plage à Étretat qui se fait prendre en photo avec les parapluies, tout le décorum.
Jeunes mariés aussi.
On se dit que voilà.
Avec l'aiguille derrière, ils font la Tour Eiffel.
Voilà, ils font le tour d'Europe peut-être pour aller prendre les plus beaux clichés dans ces voyages organisé qu'on connaît aussi et qu'on voit à Paris devant la Tour Eiffel, et tout d'un coup il y a un corps qui tombe, un suicidé des falaises d'Étretat. Donc on a déjà la sensation que la notion de mariage, je ne sais pas si c'est psychanalytique Xavier Beauvois, mais est associée à la mort dans le film en tout cas.
Bah oui, c'était assez drôle parce que il fait sa demande en mariage et le lendemain les mariés se prennent un cadavre comme ça et c'est la réalité
jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Oui, c'est ça. Et le film s'ouvre sur ça, à la fois sur cette envie de bonheur, d'évasion d'ailleurs, et puis sur la triste réalité, c'est que là dans le film, c'est des gens qui ne sont pas du cru en fait, qui traversent la France, qui viennent là pour se suicider.
Ouais. Bah là on en est à 15 cette année.
Ouais.
L'année passée, il y avait eu 8 suicides, hein, c'est 15, donc en plus c'est le début de l'automne, les jours raccourcissent, donc c'est toujours pareil, ça va augmenter encore. C'est un peu une photographie de la détresse de la France. Quoi.
Ouais. Et votre film est une très belle photographie aussi de cet endroit-là, de cette France dont on parle pas assez souvent, me semble-t-il, de cette belle histoire aussi, parce que on est dans le drame, mais on est aussi dans une histoire de reconstruction. Et la mère va jouer un rôle très très important là-dedans. J'ai beaucoup aimé ce film, Xavier Beauvois. Il est en salle mercredi. On vous invite chaleureusement à retourner dans les salles et à voir ce film. On vous aime tous autour de la table, mais c'est pas le cas d'une seule d'entre nous. Hélas, il fallait bien quelqu'un. Et elle, c'est Morgane Cadignan. À toi, Morgane, ça va pas être facile.
Non, surtout que Xavier, Sylvie, je vous aime pas, mais Sylvie, vous êtes déjà venue une fois dans l'émission. C'était le 24 août 2020 et c'était ma toute première chronique de ma vie et vous étiez accompagnée de Blanche Gardin. Du coup, je suis contente de vous revoir. Vous avez vu, j'ai tenu. Par contre, revenez pas l'année prochaine parce qu'on va passer en négatif hein, sur les points de vie, mais cette fois, vous êtes avec Xavier Beauvois, sans déconner, Gardin, Beauvois, pas des petits noms, quoi. En fait, vous êtes pas productrice, vous êtes conducteur poids lourd. C'est un truc de ouf. Dans 6 mois, si on voit écrit sur notre tableau de programmation, Sylvie Sylvie Piala, Barack Obama, faudra pas qu'on s'étonne, quoi. Mmh. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'Albatros. Alors moi, je suis un petit peu naïve. Et je me dis, allez, on arrive en hiver. Un film un peu lumineux sur un oiseau de mer, ça va être léger. Ça va me faire oublier que bientôt le soleil se couchera à 16h, emportant avec lui la lumière, mes espoirs et mon envie de porter autre chose que des leggings et des sweats qu'auraient pu appartenir à Pavarotti. Mmh. Et bah non, pas encore aujourd'hui le Pixar, hein, Xavier. Non, là, on est sur l'histoire d'un policier en Normandie qui tue sans faire exprès un agriculteur qui, écrasé par la misère sociale, hésitait à se suicider. Rien qu'en prononçant la phrase, j'ai pris 5 ans, quoi. Non, mais le film est top, hein. Franchement, je l'ai vu, il est trop bien, mais, et puis c'est vrai que Des Hommes et des Dieux, c'était pas non plus la fête de la sardine. Les Gardiennes, pareil, magnifique film sur la charge mentale pendant la Première Guerre mondiale, à une époque où c'était quand même un vrai dossier. C'est marrant, je l'ai revu il y a pas longtemps, et pendant tout le film, je me suis dit, attends, mais là, c'est trop dur. Non, elles vont faire comme nous. Il y a bien un moment où il y en a une qui va dire bon. Bah ça fait chier, on fera le reste plus tard.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
De toute façon, ouais, c'est la guerre mondiale, hein, donc s'il y a un faux pli sur la nappe, on n'est pas à 3 jours. Et elles vont se faire un spritz. Ah mais moi en 14, laisse tomber, tu comptais pas sur moi pour fabriquer des obus. Les mecs partent au front, girl night. On pose les torchons, on va bouffer des strings en bonbons dans un bar à Saint-Michel, rue de la Huchette, quoi. Mais là, suicide, tué, misère sociale, agriculteur, ça fait beaucoup de mots-clés qui me font dire que c'est Ken Loach qui devrait faire la chronique, pas moi, quoi. Et pardon, magnifique casting, mais où est Vincent Lindon? Vous savez très bien qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter s'il joue pas dedans. Une jurisprudence, hein, les amis, vous êtes fous de passer au-dessus des lois comme ça. Bon, pour être honnête, Xavier, j'avais un projet de comédie musicale à vous proposer, mais c'est un peu mort, quoi. Mais même si ça se passe dans une ancienne région minière, allez, West Side Story, Singing in Béthune, on aura déjà la pluie. En plus, Sylvie, on va faire des économies de dingue pour la table régie. Il me reste quelques bonbons d'une soirée de samedi dernier. Mais est-ce que vous voulez, Xavier, une frontière en proie à une guerre de territoire, Gazaland, on va où vous voulez. Vous pouvez faire comme mon dernier petit copain et me voir comme une pause rigolote entre deux chefs-d'œuvre. On va faire des claquettes ensemble et après, je vous rends à Sylvie et vous écrire un truc sur la société qui se casse la gueule. Je sais pas encore qui sera président en 2022 en espérant très fort que ça reste au masculin, mais dans tous les cas, à mon avis, vous aurez des trucs à raconter.
Bravo Morgane Cadignan.
Morgane que vous retrouvez au Métropole du jeudi au samedi à 20h.
Morgane évoque les Métropole. Gardiennes et en effet le personnage de Marie-Julie Maille, c'est une gardienne aussi à sa façon. C'est elle qui garde un peu le temple quand son mari Jérémy Régnier, bouleversé, sidéré par ce qui vient de se passer, il vient de tuer quand même un proche, il le considérait comme tel, il était sans cesse à aller le voir pour le réconforter, lui dire qu'on pouvait trouver des solutions. Il y a une gardienne, la femme joue encore ce rôle-là dans votre film, Xavier Beauvois.
Oui, c'est une gardienne, mais elle se prend aussi la tempête en même temps que lui, pas la même. Mais,
pas la même.
C'est un beau rôle d'être une gardienne. Voilà,
et qu'est-ce qu'elle est lumineuse, cette gardienne, Marie-Julie Maille, que vous connaissez bien, puisque je peux le dire, c'est votre épouse, c'est votre compagne et la mère de votre fille. On retrouve Madeleine aussi, merveilleuse Madeleine dans le film. Elle aussi, elle est sublime, cette petite, je suis pas objective, mais elle est véritablement sublime.
Non, petit budget, sublime. On essaye de payer le moins de monde possible.
Non, mais il y a quelque chose aussi qui participe justement, je trouve, à ce film, c'est d'y avoir mis Marie-Julie, qui est aussi une grande comédienne qui est monteuse, qui monte vos films aussi d'habitude, qui a monté encore celui-ci, mais qui a joué également. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de les voir aussi à l'image cette fois-ci, toutes les deux?
Bah, des fois, on dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, donc c'est aussi c'est un désir de leur donner des preuves. C'est quelque chose qu'on nous enlèvera jamais, c'est beau. C'est un plaisir, c'est un... Et puis bon... C'était un petit peu compliqué ce qu'elle avait à faire dans les gardiennes parce que c'est une femme, elle voit arriver le maire et donc quand le maire arrive chez vous pendant 14-18,
c'est pour une mauvaise annonce.
Comprenez tout de suite quoi. Ouais. Et donc de jouer ça, c'est un petit peu un Everest pour un acteur ou une actrice. Donc je me suis dit, bon, si elle sait jouer ça, elle peut tout jouer.
Et vous avez eu raison. Moi en tant que spectatrice, elle apporte aussi quelque chose au film de cette force tranquille à la fois installée, cette préoccupation constante pour cet homme et puis aussi ce regard vers l'avenir. Sylvie, ça aurait pu être un obstacle quand Xavier vous a présenté le casting, parce qu'on sait aussi, et on en parle souvent dans ce studio, que le casting c'est important pour produire un film, pour monter financièrement un film.
Oui, enfin dès le début, Xavier avait pas très envie d'un couple vedette pour incarner les deux personnages. Et moi j'avoue que j'ai pas été la dernière à...
Elle a encouragé.
Pousser pour Marie-Julie, parce que c'est vrai que lui, il l'a souligné. Mais moi, j'avais trouvé extraordinaire ce qu'elle avait fait dans Les Gardiennes. En plus, c'est une séquence. Alors, c'est compliqué d'arriver, enfin, même si elle était là sur le tournage, c'est compliqué d'arriver dans un film et d'avoir une séquence à jouer seulement, de ne pas être emporté par toutes les journées de tournage. Et elle a une, je sais pas, moi je dis c'est la bonté incarnée, ce visage, c'est la bonté incarnée, mais la bonté forte, pas la bonté. Il y a quelque chose de tellement lumineux, évident et tranquille que, enfin moi je, pour moi c'était une évidence. Ouais. Après c'est vrai que comme Madeleine jouait dans le film cette fois-ci un rôle plus important, pareil que la dernière fois. Bah, c'est vrai que c'est un monde un peu idéal de jouer en famille comme ça. Et donc voilà. Et c'est, mais la grande performance, c'est celle de Jérémy, d'une certaine façon, qui lui est un acteur, voilà, qui on va dire classique, un acteur quoi. Et d'avoir le courage, la force, l'envie de rentrer comme ça dans un monde aussi familial.
C'est ça, ouais.
C'est franchement quelque chose de très rare. Je pense que il y a très peu de comédiens qui vous disent bon bah écoute, tu vas jouer avec la femme du maître, déjà avec Beauvois, bon. et alors qui joue la fille, bah la femme de Beauvois, et la gamine, bah c'est la fille de Beauvois. Bon, c'est, enfin il y a quelque chose qui
est assez... Il y a des scènes au lit, il y a des scènes
d'adopter Jérémy pour qu'il sorte mieux.
Il y a des fesses. Il y a des scènes de nudité aussi, donc ça doit pas être forcément et évident pour vous et pour Marie-Julie, parce que elle est dirigée par vous, sous votre regard, et vous en tant que metteur en scène, vous devez aussi, j'imagine, pousser pour avoir ce que vous voulez obtenir dans le film.
Ouais, mais bon, je sais pas, si j'ai des scènes avec Juliette Binoche, par exemple, dans le film de Claire Denis, elle dit rien, donc moi je dis rien.
Vous avez raison
par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'avec un autre producteur ou une autre productrice, je pense que j'aurais pas pu faire tourner mon épouse. Ça, c'est évident. On m'a dit, attends, mon coco, elle fait le scénario.
Au sens propre.
Elle est monteuse, tu vas pas en plus la prendre comme. Non, ça.
Ouais, ouais, ça aurait été trop mélangé, ça aurait pas été un argument suffisant.
Je pense que voilà, j'aurais pas pu.
Et puis vous êtes gardé un joli rôle pour vous aussi dans le film.
Ah oui, vous apparaissez aussi dans le film.
J'ai pas fait exprès en fait, c'est un peu c'est un peu les limites.
Comment on fait pour pas être faire exprès d'être devant le cadre, dans le cadre?
Non, parce que c'est quand on prend des non professionnels, on fait des essais et vidéo, on refait des essais, après on les fait venir sur le plateau. Histoire qu'ils sentent un petit peu l'ambiance, on va manger à la cantine, on leur explique tout, et puis et des fois, le jour du tournage, bah, ils perdent tous leurs moyens. Quoi.
Mmh.
Et
oui.
Donc là, au bout de 2h30, je lui mets la scène, et mon équipe m'a dit, bon, ben là, on va vers la catastrophe industrielle, fais-le toi. Quoi. Donc, j'ai joué moi.
Petit caméo.
Petite intervention que vous avez Beauvois au poil, il faut aller voir le film, on ne vous en dit pas davantage. Non. Forcément, Albatros, c'est en salle mercredi prochain. Et puis, c'est un film aussi lumineux, à plein d'égards, au-delà de Marie-Julie Maille, moi, qui m'a vraiment imprimé la rétine, vraiment, très sincèrement. Parce que c'est un film où je n'ai pas vu la mise en scène, où j'ai absolument rien vu. J'ai juste assisté à une histoire, j'ai participé à une histoire, et ça, je parle à la productrice, me semble-t-il, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Il y a plein de films que j'aime par ailleurs, que je vois, mais je vois très régulièrement, je vois la ficelle, je vois comment c'est fabriqué. Là, je ne l'ai pas vu.
Non, mais c'est vrai, moi en plus, j'ai quand même 20 ans avec Piala avant, hein, qui disait toujours que un film, ce n'est pas des galipettes de caméra. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la mise en scène, c'est ce qui fait qu'on est plus touché par un film, c'est toujours la mise en scène. Et c'est en même temps quelque chose d'invisible. Et quand les gens vous disent, mais pourquoi j'ai tellement aimé ce film? Et vous leur dites, ben, c'est la mise en scène. Mais c'est quoi la mise en scène? Ben, c'est ce que t'es en train de décrire quand tu le ressens, en fait. Mais j'aurais voulu dire un petit mot, parce que comme c'est tellement familial, on oublie qu'il y a Frédéric Moreau qui écrit le scénario aussi. Et Frédéric, qui est un membre de ta famille maintenant aussi.
Et c'est le principe, je crois, avec Xavier Beauvois. Quand
c'est le principe, parce que c'est pas évident non plus. Un scénariste, en l'occurrence, une scénariste qui doit aller écrire chez le metteur en scène en Normandie alors qu'elle est en Bourgogne. Et
c'est pas non plus la traversée.
Oui,
la
d'accord,
planète.
Mais la disponibilité comme ça, enfin, on l'a très rarement. Voilà. Et il y a aussi quelque chose de très souple chez elle, c'est-à-dire qu'elle est d'une certaine façon d'accord pour que ce fameux scénario ne soit pas un corset.
Oui.
Et en même temps, on a vraiment besoin pour financer le film d'un scénario qui tienne la route. Et donc, toute cette alchimie entre Marie-Julie, Xavier et Frédéric fait que à l'arrivée, il y a le film.
C'était important aussi d'intégrer une troisième personne dans le scénario, entre vous et Marie-Julie, dans le couple aussi.
Oui, c'est important. On prend du recul. Faut quand même qu'on parle de Jérémy Régnier, quand même.
Alors, on parle de cet acteur. Comment vous l'avez choisi, Jérémy Régnier? C'est une évidence, lui aussi, dans le film.
Bah déjà, il fallait que ce soit crédible, le couple. Hein, donc, comme c'était mon épouse et ma fille d'abord, il fallait que ce soit crédible et que ce soit le père de ma fille.
Fallait pas un grand brin.
Non, et bon, déjà, il est belge. Bon, moi, j'adore les Belges. Ça, bon, c'est un excellent acteur. Et puis, bon, ça a été d'une simplicité avec lui. C'est, bon, il y a pas, quasiment pas de direction d'acteur. C'est quelqu'un
vous
qui.
Vous dirigez peu les acteurs ou c'est lui qui n'en avait pas besoin?
Bah, vous savez, il y a une différence entre les comédiens et les acteurs.
Ah, alors ça m'intéresse.
Le comédien, c'est quelqu'un qui va jouer le personnage.
Oui.
Qui va voir un coach, qui va répéter son texte, qui va beaucoup travailler. Et après, il va jouer le personnage. Tandis qu'un acteur, c'est quelqu'un qui va travailler en amont. Là, en l'occurrence, de rencontrer des gendarmes, d'apprendre la voile, de se renseigner sur tout. Et après, il va être, quand je dis action, il est le personnage.
D'accord.
Il ne joue pas. Et ça, c'est très, très important pour moi.
Et ça demande beaucoup de temps en amont, alors ou ça dépend du talent de l'interprète, voilà.
Ouais, pas forcément, un petit peu, mais je leur dis surtout, n'apprenez pas votre texte.
Comment ça?
Bah, faut le savoir vaguement, mais après, on a trop tendance à le jouer si on le connaît par cœur. J'aime bien changer les choses au dernier moment. Et Jérémy, il a un instinct, il est doué. Et dès qu'il croise quelqu'un sur le plateau, c'est que des ondes positives. C'est avec les non-professionnels, il a une générosité incroyable. Enfin, c'est une rencontre magnifique et j'ai très envie de faire d'autres films avec lui.
Voilà. Et c'est un film magnifique avec Jérémy Régnier qui incarne ce gendarme qui va accidentellement tuer ce fermier et qui va avoir besoin de la mer comme échappatoire, comme façon de régler ses comptes, de se laver aussi peut-être avec cette musique. L'Albatros en salle mercredi prochain, réalisé par Xavier Beauvois, produit par Sylvie Piala. Nos invités et tout de suite dans la bande originale, c'est au tour de Florence Mendès.
Bonjour. Salut tout
Florence.
Le monde.
Coucou.
Hier, j'ai à nouveau désobéi à Nagui, qui, quand je suis arrivée ici, m'a dit « Tu vois, Simba, toute cette immensité baignée de lumière, c'est notre royaume. Oh, et l'endroit baigné dans l'ombre aussi. Notre royaume s'arrête à cette frontière. Ce sont les commentaires YouTube, tu ne dois jamais y aller. » Oui, que voulez-vous, je suis faible. J'ai encore été lire les commentaires. Et parmi eux revient souvent un « Je préfère Marina Rollman ». Mais moi aussi, je préfère Marina Rollman, je lui voue un culte. D'ailleurs, c'est la stricte vérité, la première fois que je l'ai rencontrée à Montreux, j'ai été tellement impressionnée que tout ce que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Tu veux que je tienne ta veste ?» Mardi, j'ai écouté sa chronique sur la masturbation, mais quel bonheur entendre la meuf que je préfère en humour me conseiller de me double-cliquer la souris. Ça t'ennuie si je fais ça dans un coin en te regardant pendant que tu crées?
Oh non.
Sans blague, je suis d'accord avec elle. Il faut parler de masturbation, d'autant qu'avec le préado que j'ai à la maison, la conversation devrait plus tarder. Tu vois, chérie, quand les garçons se masturbent, de drôles de choses sortent. Chez la plupart, c'est du sperme. Chez Raphaël Enthoven, c'est un bouquin. Du tout de ça dont je voulais parler aujourd'hui, mais de harcèlement sexuel. Ouais. Il m'est arrivé une mésaventure. En sortant du théâtre, un homme en voiture me fait une remarque désagréable sur mon cul, ce à quoi je lui rétorque avec un truc plein de poésie du genre... Je te souhaite de glisser sur un placenta. Échange de noms d'oiseaux, plein de courage, il avance avec sa voiture jusqu'au prochain feu rouge, d'où de loin il me hurle et je cite « Tu pues de la chatte ».
Ah ouais.
Eh ben franchement, s'il le sentait depuis sa voiture,
ouais.
Soit il est temps que je m'attaque au problème, soit il faut qu'il change de fragrance pour son sapin magique.
Sapin magique.
Le harcèlement de rue, c'est quand même dommage que ça vire toujours à la vulgarité. On pourrait revenir à des choses plus pittoresques. Pourquoi ne pas utiliser le langage fleuri du Moyen-Âge? Oh là, putrelle. Ce pistil que tu me la suçasses, c'est que tu m'as tout l'air d'une goulue. Ce à quoi je pourrais répondre, arrière gueux, point, te dis-je. Ne suis-je la ribaude que tu escomptas de trousser? Point ne te donnerai-je mon pucelage, quand bien même saurais-je ce que j'en ai fait. Peut-être est-ce pour ça que je suis toujours célibataire. Je devrais être un peu plus ouvert d'esprit et me dire que l'amour, bah, ça peut frapper partout et tout le temps. Un peu comme Bertrand Cantat.
Ah
oui. Non, évidemment, ça me rend dingue. Ras les miches qu'on me parle comme un labrador femelle. Je sais, je dois rester calme, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de draguer? je crois que je vivrais une plus belle histoire d'amour avec un spéculum. Et là encore, l'été est fini. Hein, quand t'es en petite robe estivale, c'est l'enfer. Mais mec, oui. T'es ce que le soleil a fait de pire après le cancer de la peau. Mais au moins, le mélanome, il est malin. Tu comprends, voilà, tu me plais pas, tu me plairas jamais si on était sur une île déserte. Ben voilà, j'espère juste que les bananes, elles seront pas trop mûres. Allez, casse-toi, je te préviens, si tu me touches, je vais te faire éjaculer des regrets. Alors, tu vois, enfoiré, tu me fais perdre mon calme, voilà, alors que j'avais dit que je m'énerverais pas. Allez, il est temps pour moi de finir, et ben toi, ben, tu vas te finir tout seul.
Voilà. Merci.
Florence, tous les mardis à la Petite Loge et le vendredi 5 à Marseille. Où ça, Marseille ?
À l'Ardu.
Ah, l'Ardu. Et nous, mercredi prochain en salle, Albatros, réalisé par Xavier Beauvois, produit par Sylvie Piala, un film merveilleux, je le dis à nouveau, qui m'a fait énormément de bien. On a parlé de cette traversée en mer parce que c'est la deuxième partie aussi du film. C'est cette quête de retour à soi. Il a besoin, il est sidéré par l'acte qu'il a pu commettre. On est emporté avec lui dans ce désespoir parce qu'on se demande comment il va pouvoir se reconstruire. Très rapidement, son institution aussi le met de côté parce qu'il y a une enquête qui doit avoir lieu, parce qu'on a besoin tous de comprendre. Il part traverser la mer comme ça. Il partait régulièrement sur l'eau pour s'aérer, pour se faire du bien. Là, on sent que ça a une dimension particulière dans ce film, Xavier Beauvois.
Oui, il y a un côté un petit peu mystique, quoi. Déjà, c'est un petit-fils de Terre-Neuve. Donc, les Terre-Neuve, c'est quelque chose de très important à Fécamp. C'était des gens qui partaient 9 mois en mer.
Mmh. Et très loin.
Je me demande s'ils allaient au Canada, en fait, pour pêcher la morue.
Ils revenaient pas toujours.
Ouais, déjà. Et on disait qu'ils voyaient jamais une feuille sur un arbre. Mmh. Parce qu'ils partaient, avant le printemps, ils revenaient plus tard, c'était l'hiver, et donc il y a ce truc un peu magique à Fécamp, donc c'est un petit-fils, donc il rêve de ça, et puis je me suis inspiré aussi beaucoup de Bernard Moitessier qui a écrit les plus belles pages sur la mer, sur la nature. C'était le premier Vendée Globe, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait le Bog Challenge, c'était en 68 je crois, un truc comme ça. Donc ils sont partis à quelques-uns sans téléphone, évidemment, sans GPS, sans radio, sans rien du tout pour faire le tour du monde. Et il est arrivé en tête à un moment donné au large du Cap Horn. Il n'avait plus qu'à remonter le boulevard qui est l'Atlantique quand on a fait toutes les 3 caps. Et là, il a décidé d'abandonner la course, d'abandonner le chèque du gagnant. Et il a fait demi-tour, il est parti vers Tahiti. Il a dit c'était peut-être pour sauver mon âme. Il n'a pas voulu retourner. Et donc je me suis inspiré beaucoup de ça aussi.
Il a laissé femme et enfant et il est parti. Il est resté plus de 300 jours sur mer.
Oui, il a battu le record à l'époque du nombre de jours en mer. Et Jérémy Régnier dit que, en ayant appris la voile pour le film, il dit que peut-être la mer, c'est un des seuls espaces de liberté maintenant, en fait.
Oui.
Et moi, je suis absolument passionné par les gens qui font le Vendée Globe. Ils disent on fait pas le tour du monde, on fait le tour de notre monde.
Oui.
On part pour apprendre des choses sur soi-même. C'est une chose que j'aurais aimé faire, c'est ça, c'est faire le Vendée Globe.
La grande traversée, et symboliquement, il prend la direction de Terre-Neuve. Pendant cette grande virée en mer, la tempête s'abat à nouveau sur lui. C'est une deuxième tempête au sens plus organique, catastrophe naturelle, qui lui permet de laver peut-être son âme et d'envisager un retour. Qu'est-ce qui a été dans le scénario compliqué à ménager, à s'autoriser, à s'interdire, parce qu'il y a des contraintes budgétaires aussi. C'est des scènes qui ne doivent pas être simples à tourner, Xavier Beauvois.
Bah, dans le cinéma, on dit qu'il y a les 3 B, hein, les 3 problèmes. C'est les bébés, les bêtes et les bateaux.
Alors, dans le film, on est d'accord, vous avez pris des bateaux, pas de bébés, mais bon, il y a Madeleine, mais bon, allez, c'est une rôle, ça, Madeleine. Bêtes. Ouais, c'est ça. Et puis, il manquait quoi?
Les bébêtes.
Les bébêtes.
Les bêtes.
Ça va, on est bien.
Bah, mon chien n'a pas voulu jouer dans le film.
Il y a des vaches.
Non, là, c'est faire une tempête, je ne sais pas comment on fait, donc je me suis dit comment on fait. Donc j'ai regardé les films des autres, hein, All is Lost par exemple, avec Robert Redford. Après, on s'est rendu compte que c'était tout mon studio, que ça coûtait des millions de dollars. Et mon chef op a eu l'idée de... Julien Hirsch, qui a beaucoup de talent d'ailleurs, et il a eu l'idée de demander aux remorqueurs de haute mer d'essayer leurs canons. Ils ont des canons à eau pour éteindre d'éventuels incendies sur les super tankers. Et ça a marché très bien, donc on a arrosé Jérémy avec ses canons à 30 mètres de haut.
En tout cas, ça marche. On a vraiment l'impression qu'il est au milieu
d'une tempête.
On
est en pleine mer. Et la productrice, quand elle voit le scénario, elle se dit, alors là, il va peut-être falloir...
Elle dit ouf.
Non, moi, je fais une ligne effets spéciaux, hein, et qui finalement n'a pas...
Qui n'a pas
servi.
Été complètement dépensé.
Rien qui l'inquiète.
Oui, c'est ça. Là, pour le coup, on a l'impression que Sylvie Piala, c'est la productrice idéale, quoi. Elle est partante sur tout.
Bah oui.
Et oui.
Mais c'est-à-dire que.
Faut pas trop le dire, hein, Xavier.
On essaye de laisser toutes les possibilités, puis de résoudre. C'est toujours très intéressant de. Tous les films sont trop chers, d'une certaine façon, comme tous les films sont trop longs. Et tout ça, c'est vrai. Après.
Pourquoi ils sont trop longs ?
Est-ce que c'est une phrase qui est marquée à votre porte ? Les films sont trop chers.
Non, les films sont trop chers par rapport à l'argent qu'on trouve. C'est pas qu'ils sont trop chers en soi. On trouve rarement, quand on fait le devis d'un film, le chiffre qui arrive, qui est le bon, c'est très très rare d'arriver. Même pour les très gros films, un film qui coûte 25 millions, le devis est à 30. Enfin, je veux dire, c'est pas uniquement sur les films à petit budget, c'est juste qu'il y a un moment, voilà. Donc, de toute façon, on est toujours confronté à comment faire avec ce qu'on a pour que ça ressemble à ce qui est écrit. Voilà. Alors, la première solution, c'est d'enlever des choses qui sont écrites.
Oui.
Pas forcément des choses. Mais ça rend en général toujours un scénario meilleur. Enfin, sauf si évidemment vous avez la peau de chagrin et vous arrivez avec un court-métrage. Et après, trouver les solutions artistiques pour y arriver quand même.
Ça, c'est la définition.
Puis après, il y a des gens qui font
de
des sacrifices. Le producteur n'est pas le dernier. Oui. Mais je veux dire, c'est... Voilà, s'il n'y a pas un écart démesuré, c'est évident que si vous avez un film qui coûte 4 millions et que vous en avez deux, là, il faut changer de formule, en fait. Mais,
il fallait pas dire oui.
Oui, mais c'est toujours très intéressant, parce que là, en fait, on avait prévu, c'est comme aussi... on devait aller à Terre-Neuve au départ, aussi.
Oui.
Le film s'appelait Terre-Neuve.
Voilà. D'accord.
Bon. Au tout début. Oui, au début.
Maintenant, c'est
au départ.
On
est censé tourner aussi à un moment en Angleterre, enfin dans les eaux anglaises. Et tout ça, c'est des...
Il a fallu revoir certaines choses pour que ça rentre dans l'enveloppe et que ça puisse faire le film que vous aviez vraiment envie
pas
de faire.
Pas forcément revoir, mais il a fallu être ingénieux.
Oui, voilà. C'est ça. Il faut
c'est
être...
un travail d'équipe. Donc, s'il y a toujours quelqu'un qui va trouver une idée, on n'est pas tout seul. C'est ça qui est bien dans ce métier.
Albatros en salle dès mercredi, un film de Xavier Beauvois, produit par Sylvie Piala. On va se promener dans les années de votre vie, dans la bande originale de votre existence. On va commencer en 82 avec vous, Sylvie. Klaus Nomi, Cold Song. Pourquoi cette musique pour illustrer l'année de votre rencontre avec Maurice Piala ?
Mais parce que au début du film, on n'est pas ensemble. À la fin du film, le film finit, on est ensemble. Et on est en voiture.
C'est à nos amours, le film ?
Oui, c'est à nos amours.
C'est pas mal.
Voilà. Et on entend cette chanson de Klaus Nomi. Enfin, chanson, c'est le roi Arthur. Et là, Maurice dit, tiens, on va mettre ça dans le film. Voilà. Lui qui met très peu de musique. Ouais. En général, il y en a un peu après le générique de fin. Et là, il y avait comme une évidence, parce qu'il y avait ce plan de Sandrine qui attendait sous la pluie, sous la brise, etc. Et c'est d'autant plus fort que ça a été le premier mort connu du sida aussi. Donc c'est vraiment ces années où, très insouciant des années 80, très joyeuse du début des années 80. Voilà.
Et pourtant, cette histoire, ça commençait pas forcément bien, parce que la première fois que vous avez rencontré Maurice Piala, c'était justement dans une salle où il était en train de visionner des essais de Sandrine Bonnaire. Et quand la lumière s'est allumée, qu'a-t-il dit ?
Il a dit, on lui a présenté, donc en l'occurrence moi-même, parce que le régisseur d'avant avait été remercié. Et donc c'est Cyril Collard et Florence Quentin qui étaient les deux assistants. Et qui disent, Maurice, on vous présente Sylvie Danton. Notre nouveau régisseur. Et il a dit, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, il leur a dit, mais alors maintenant on engage les gens sans me prévenir.
Voilà. Et bonjour, voilà. Et bienvenue.
Et bonjour, et bienvenue.
Voilà,
bienvenue.
Cyril m'avait raccompagné ma voiture et m'avait dit, bon, si tu viens, tu me feras pas chier. Voilà. On était sur un bon.
Donc vous êtes repartis en confiance, quoi.
En confiance, c'est-à-dire qu'on est. Il y a un moment quand on vous dit que vous allez faire la régie d'un Piala, quoi, et que vous êtes en plus inconsciente, hein, parce que moi j'avais 22 ans, j'avais fait un film comme adjoint régie, donc, mais où on se dit, bah oui, pas de problème.
Ouais, évidemment.
Voilà, oui. Ça, c'est l'insouciance du début des années 80, c'est ça.
Et cette même époque, Xavier Beauvois, vous écoutiez
Royal Canin.
Royal Rabbin.
J'ai regardé ce qu'il y avait dans les années 80, je me suis dit c'est...
Mais est-ce que vous l'écoutiez vraiment dans ces années-là? Parce que c'est pas forcément ce qui est sorti à la consigne, hein, Xavier. C'est
non,
ce que
c'était pour faire un hommage à Jean-Paul Belmondo, je voulais en profiter parce que... Voilà, il m'a un peu sauvé la vie à cette époque-là avec ses films. Ça,
et puis
je m'ai évadé complètement. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. Puis aussi à Morricone. Bon, c'est pas vraiment une bande originale parce que c'était fait pour un film qui s'appelait Magdalena. J'ai oublié le nom du cinéaste. C'est un peu un fond de tiroir qui colle pas vraiment au film d'ailleurs. Mais
bon. Il n'y a rien qui va dans ça. Enfin,
ils sont fait un peu avoir par Morricone, mais bon, voilà, c'était. C'est pour embrasser Jean-Paul Belmondo, en fait.
Et vous, Xavier, à cette époque-là, vous dites avoir attrapé le virus du cinéma assez jeune. Vous avez reçu un magnétoscope pour vos 16 ans. Vous parlez, et il en est question aussi dans ce livre, un monde hors champ, derrière la caméra de Dominique Thierry et Katell Müller, qui revient sur le tournage, mais aussi sur des pans de l'histoire de votre vie. Vous venez d'un milieu modeste, et vous aviez envie de sortir de ce milieu, et c'est le cinéma qui vous a attrapé, par la main, qui vous a donné envie d'aller voir des films. Il y a des hommes comme Jean Doucet aussi, qui vous ont transmis cette belle maladie.
Jean Doucet, au début, c'était
un historien du cinéma.
Ouais, c'était un peu mon père, en fait. C'était un immense critique, un immense historien. Et en fait, pour moi, le cinéma, c'était un peu l'évasion. C'était s'évader facilement, être complètement ailleurs. Et Jean Doucet c'était plus un divertissement. Et Jean Doucet, c'est le premier qui m'a montré que c'était un art total, absolument époustouflant. Et là, le déclic s'est vraiment produit à ce moment-là. C'était l'époque où aller au ciné-club, c'était un bonheur. Au vidéo-club, regarder les jaquettes alors le prochain Belmondo, il n'y a que deux cassettes pour la ville, donc le réserve pour le samedi prochain, tout ça.
Ouais,
mais c'était merveilleux. C'était autre chose que les plateformes. J'adorais ce moment de rentrer de pension et d'aller dans un vidéoclub choisir un film, c'était vraiment bien. C'est dommage que les jeunes ne puissent pas connaître ce truc.
On passe aux années 2003-2005. Brian Ferry, Sylvie Piala, Easy Living. Pourquoi cette
Super
chanson
album.
Pourquoi cette chanson?
Moi, je suis tombée folle amoureuse de cet album que je peux écouter, mais vraiment n'importe quand. Et alors, c'est des reprises, hein, bien sûr.
Que des reprises.
Mais et puis, je sais pas, il a la voix, sur un fil. Enfin, c'est très émouvant.
Je crois même une chanson de Marlène Dietrich dedans.
Absolument.
Incroyable. Et 2003, c'est la création de votre société de production, les films du Warsaw.
C'est ça.
Alors, j'ai découvert pourquoi Warsaw. Expliquez-nous.
Alors, le Warsaw, Donc le premier film que j'ai produit, c'était un film de Marie-Laure de Decker, qui s'appelait Un voyage chez les Oudabés. Et elle est partie, elle voulait partir filmer le Warsaw, qui est leur grande fête, et qui est une fois par an. Et c'est une fête, donc Peul, où une nuit, les femmes choisissent les hommes, qui sont très...
C'est pas mal.
Comment dire ? Apprêtés, avec un grand maquillage, les cheveux, des perles. En fait,
les hommes ou les femmes apprêtées ?
Les hommes.
Les hommes.
Voilà.
Donc on choisit un homme pour un soir.
C'est ça. Avec un foulard, on promène son foulard sur lui.
On appelle ça les chandelles en français.
Et vous vous lancez dans la production avec les films du Warsaw, donc. C'est un métier, quand vous en parlez, et c'est aussi un métier rempli d'emmerdes, en fait. Il faut régler ça, il faut régler les emmerdes, en réalité. C'est aussi ça, producteur.
Oui, c'est aussi ça. C'est
qu'on vous voit sur les tapis rouges à Cannes une fois l'an, mais tout le reste du temps, c'est d'arriver à négocier, à se débrouiller.
Aller à Cannes sur le tapis rouge.
Oui, déjà, aller à Cannes, absolument. Comment est-ce qu'on apprend ce métier-là? On l'apprend en le faisant, en étant déjà dans le métier?
Bah, franchement, moi, les 20 premières années avec Maurice, c'est je sais pas comment dire, c'est une immersion totale.
Oui,
hein, parce
un peu
que c'est pas 20 ans avec quelqu'un, c'est 20 ans, 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Donc, je sais pas, c'est 40 ans pour quelqu'un d'autre.
Envie d'homme, c'est 40
ans. On dormait pas, non. Et Maurice, c'est comme Xavier, vous baigne dans tout. C'est-à-dire qu'à la limite, vous, c'est un peu touche à tout, bon à rien, mais ça va, des costumes, au script qu'il faut écrire parce qu'il aime pas écrire. Donc il y a une espèce de vous êtes, oui c'est ça, c'est de l'immersion totale dans son cinéma en tout cas et dans sa façon de le faire. Et avec Toscan du Plantier qui était l'accompagnant, moi quand je suis arrivée, il était déjà là et après ils sont morts à un mois, jour pour jour d'intervalle, ce qui est quand même assez dément. Et puis alors après la mort de Maurice, enfin plus la maladie, plus, enfin bon vous êtes là, il faut juste travailler en fait le plus vite possible parce que c'est quand même 9 ans sans travailler avec tout ce que ça implique financièrement. Et puis ben il se passe rien vraiment quoi. Et donc et finalement on me propose quelque chose qui n'avait rien à voir et c'est en refusant cet autre emploi que je me suis dit que finalement oui voilà j'avais du mal à quitter tout ça et que touche à tout bon à rien, producteur, c'est parfait. Non, mais c'est-à-dire que du coup, vous embrassez. Puis oui, j'avoue, une petite vocation à l'accompagnement. Hein, oui, c'est pas ultra à la mode pour les meufs, mais bon, moi j'ai cette vocation-là, voilà.
Et c'est jamais les mêmes ennuis, c'est ça qui est bien aussi.
Voilà, c'est varié.
C'est bien, c'est une bonne façon de renouveler le boulot, c'est ça. Bah, c'est pas toujours la même chose.
Parce que quand il faut, pour les gardiennes, par exemple, savoir comment on fait pour trouver des vaches avec des cornes, parce qu'elles en ont plus maintenant, ou faire enlever la plaque d'immatriculation, c'est interdit, enfin, c'est un vide juridique, enfin, c'est ce genre de truc.
Que la productrice doit régler. On va interrompre juste cette bande originale parce qu'on a Marc Nignot qui est avec nous. Bonjour Marc Nignot, bonjour. Vous êtes auteur, formateur et intervenant à l'École nationale supérieure de la police. Vous avez publié Police au secours, face au métier et face à l'humain aux éditions du Net. On aimerait parler davantage de ces métiers, de cette souffrance aussi psychologique dont il est question dans le film de Xavier Beauvois. Déjà, quelle est la tonalité des messages que vous avez recueillis?
Ben, j'allais dire, c'est un peu en écho au film. Ça montre la diversité déjà de la population qui forme les forces de l'ordre. C'est à l'image de la société, et c'est aussi peut-être, j'allais dire, des gens ordinaires confrontés à l'extraordinaire, c'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. Tout à fait, mais c'est ça tous les jours, et c'est ça qui ressort. Et on se dit, ça peut être nous.
Est-ce que c'est encadré psychologiquement? Parce que c'est aussi l'autre question qu'on se pose. C'est-à-dire que...
Vous entendez par encadré?
Avoir accès régulièrement à des moments de parole, à être en mesure de déverser ce quotidien. Parce que dans le film, on le voit, le personnage de Jérémy Régnier ne veut pas le faire à la maison, il ne veut pas le raconter. Ouais.
Alors, ils sont encadrés, c'est-à-dire que, à l'embauche, ils sont encadrés parce qu'il y a un test de psychologique qui est fait. Ensuite, non, il n'y a pas d'encadrement, j'allais dire, spécifique. Ils sont, par contre, accompagnés. Il y a tout qui leur est proposé. Les administrations ont tout fait pour que... Il y a deux numéros gratuits, il y a des cellules d'écoute, il y a des associations, deux policiers même, hein, c'est-à-dire de bénévoles policiers qui se sont montés pour aider les policiers à l'écoute. Mais on peut obliger personne à parler. Donc, c'est toute la difficulté. Et les psychologues de la police ont du mal parce qu'effectivement, beaucoup de policiers que j'ai interviewés pour ce livre notamment n'ont pas fait appel aux policiers de la police. Ils sont allés à l'extérieur, ils ont payé sur leur denier.
D'accord, parce que c'est compliqué à l'intérieur de ce monde-là d'appeler à l'aide.
Ils peuvent, mais il y a l'image du super-héros, police, un métier d'homme, c'était le slogan il y a quelques années, donc c'est compliqué pour eux. D'ailleurs, dans le film, on entend Jérémy Régnier un moment qui dit j'ai noté la phrase, parce que c'est je voulais le sauver, je l'ai tué. Il se sent comme un sauveur, c'est-à-dire que ces métiers-là sont des métiers quand même forts. Donc effectivement, il y a un moment où ils sont confrontés à la réalité qui est, ce sont des humains avec des failles comme tout le monde et ils n'ont pas les armes pour se battre psychologiquement toujours.
En revanche, après un drame, il y a un accompagnement qui est imposé là pour le coup.
Alors il y a un accompagnement qui est proposé.
Ah, proposé.
Il n'est pas imposé. Rien n'est imposé. J'ai un exemple, par exemple, le chef adjoint de la BRI qui expliquait qu'après l'hypercachère ou le Bataclan, il aurait été proposé soit en individuel soit en groupe. Pour la majorité, ils ont préféré en groupe. Et lui-même dit d'ailleurs que il a dit occupez-vous de mes hommes, moi ce sera plus tard. Et finalement elle lui a dit écoutez, j'ai un quart d'heure. Il a dit bon, si vous voulez. Et finalement il est resté près d'une heure avec elle.
Et ça participe aussi d'avoir une sensation de faire partie d'un métier où on est mal aimé, parce que c'est aussi ce qui peut ressortir dans les témoignages.
Oui, puis il y a la complexité, enfin il y a le côté paradoxal dans les séries télévisées, souvent on est héroïsé, et puis dans la réalité on se prend des pavés dans la figure où les gens sont pas toujours de notre côté, donc c'est un peu compliqué pour eux de jouer avec tout ça, parce que vous le disiez tout à l'heure, les forces de l'ordre, on oublie que c'est les gardiens de la paix. Effectivement, on devrait peut-être plutôt dire les gardiens de la paix, peut-être ça réunifierait un petit peu plus.
Je vais pas les gardiens du CAC 40.
Oui.
Non, parce que là, franchement, les policiers ont été embrassés après les...
Oui.
Voilà, et puis maintenant, il y a un glissement, c'est borné, il y a des gamins qui manifestent pacifiquement sur le pont de Sully, par exemple, contre l'inaction climatique, ils se prennent du gaz à bout portant, des infirmières se font taper, des pompiers, bon, il y a un moment donné...
D'ailleurs, dans le film, Albatros, Victor Belmondo parle de ça en tant que gendarme, il s'étonne, il s'érige contre la violence lors des manifestations d'un certain nombre de CRS. Merci beaucoup, Marc Ninot, d'être venu au micro de la bande originale. Merci à vous, vous avez publié Police au secours, face au métier et face à l'humain aux éditions du Net. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Jérémy Crédville.
Oh, Jérémy. Ambiance.
Ah, les amis, les copains, les potes, ce qu'on peut retrouver dans des endroits en public quand on a le pass sanitaire. Parce que dans tous les endroits en public, il faut le pass sanitaire, sauf pour les meetings politiques. C'est génial. C'est fabuleux. Je trouve qu'ils nous la mettent vraiment profond, ceux-là, mais bon. Petite chanson pour eux. Les élus d'abord, ça s'appelle.
Allez.
À la Georges Brassens. 3, 4, 5, 6. Ils ne paient pas toujours d'impôts, sont souvent absents au boulot, se comportent parfois comme des porcs, nos élus tricolores. À l'Assemblée, ils sont peinards, ils baissent les aides des smicards, mais s'augmentent leur enveloppe transport. Les élus d'abord. C'est vrai que la vie d'élu est dure. Pour rester digne dans l'imposture, il faut quand même être vraiment fort. Le pouvoir dévore. Les allocataires nous coûtent trop, mais pas les exilés fiscaux. Leur mauvaise foi, une palme d'or. Les élus d'abord. Ils nous la mettent fort dans l'anus, dînant dans des endroits de luxe, pendant que des gens dorment dehors, pauvreté record. Pour être jardinier en mairie, casier judiciaire vierge requis, mais pas pour le maire, ça c'est fort, les élus d'abord. Pour toutes les sorties en public, sauf pour les meetings politiques, il te faut le pass sanitaire, c'est obligatoire. Fais pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. J'ai des procès, j'aime les lobbies. À tout moment, je change de bord, les élus d'abord. Le budget fleur pour l'Elysée, c'est 600 000 euros de dépenser, mais c'est à nous de faire des efforts, ceinture qu'on perfore. Tout l'hôpital est en détresse, manque de moyens, soignants en stress, on vous fera des rapports, les élus d'abord. À l'approche des élections, c'est là qu'ils se mettent à l'action. De véritables conquistadors, les marchés ils adorent. Collectionnent les serrages de main et puis les mises en examen, mais ne sont pas inquiets de leur sort, ça passera encore. Dernier couplet, des promesses ils en font beaucoup, mais pour les tenir ça devient flou. C'est pas ta vie qu'ils améliorent, c'est plus leur confort. T'as pas de beurre dans tes épinards, va falloir être débrouillard. Je te le dis une fois encore, les élus d'abord. Bisous.
Ouais. Bravo Jérémy Crédville.
Jérémy Crédville, le 10 novembre à La Cigale pour un match d'impro et le 20 décembre au Sébastopol de Lille.
Et Tanguy Pastureau est avec nous. De quoi allons-nous parler dans un instant?
Je vais vous parler de drogue, ça peut être sympa la drogue, me disait Daniel. Sauf quand elle est mise dans votre verre à votre insu, la consommation de GHB explose.
La bande originale. matinale, deuxième partie avec Morgane Cadignan, Jérémy Crédville, Florence Mendès, Tanguy Pastureau, Daniel Morin. Qu'est-ce qu'on est nombreux autour de cette table pour accueillir à nouveau Sylvie Piala et Xavier Beauvois. Et pour parler, et encore des applaudissements, pour parler de ce film Albatros en salle ce mercredi. Un très beau film que vous avez réalisé, Xavier Beauvois, avec Jérémy Régnier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo aussi, dans ce personnage du jeune gendarme. Je crois que ça a été un coup de foudre avec Victor Belmondo quand vous l'avez rencontré. C'était à Cannes, c'était ça?
Un coup de foudre amical, hein.
Oui,
on s'entend bien.
Tout va bien, tout va bien.
Oui, on s'est rencontrés parce que on s'est rencontrés comme ça dans l'avion et puis on a beaucoup rigolé. On a peut-être un peu dérangé certains passagers.
Ah, mais... ça m'étonnerait pas de vous.
Et après, je lui ai dit, si tu veux faire quoi, si tu veux faire un stage sur mon film, et il a dit oui. Et donc il s'est retrouvé sur Les Gardiennes et je lui ai je lui ai fait un peu la fémis en deux mois, quoi. Je lui ai montré un peu tous mes secrets.
La fémis en deux mois, ouais.
Il a noté tout sur un petit carnet, je sais pas ce qu'il a noté dans son carnet, comme ça. Et puis je lui ai donné un tout petit rôle et je lui avais dit, prochain, je vais t'écrire un truc. Et c'est un petit peu mon fils de cinéma.
Ouais, là encore, vous avez adopté la famille Beauvois, ouais. C'est une grande famille, en fait.
C'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'à chaque film, on se... on se retrouve et si possible d'engager les mêmes techniciens s'ils sont libres à chaque fois. C'est une famille qui se reforme et c'est un réel plaisir.
Iris Bry aussi, que vous aviez déjà fait jouer dans Les Gardiennes. Geoffroy Séry, Olivier Pequery, Madeleine Beauvois, bien entendu, dans le rôle de Poulette, cette petite Poulette qui est aussi cet enfant, ce ciment.
Qui nous écoute d'ailleurs, je pense. Salut Poulette, tu vas bien?
Salut Poulette, alors double salut à Poulette qui est en vacances à la maison.
Exactement.
C'est ça.
Non, elle est chez ses grands-parents.
Ah, c'est ça, d'accord. Qui a vu le film?
Bien sûr, oui.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle... vous disiez que sur le tournage, Madeleine était très pro, c'est-à-dire qu'elle a conscience que le son, c'est quelque chose de très très important pour vous quand vous tournez, et qu'elle était très très observatrice, justement, de ces détails-là qui comptent dans votre cinéma.
Oui, c'est étrange, parce que des fois, elle voyait des choses, un faux raccord, ou un truc que personne n'avait vu... C'est assez fascinant, mais...
Les chiens ne font pas des chats, c'est ça?
Oui, parce que des fois, on trouve ça étrange qu'un enfant, une fille d'un réalisateur soit formidable dans un film, mais c'est un peu pareil pour tous les métiers. Hein. C'est un fils de boulanger peut être capable de faire des éclairs au chocolat à 6 ans. Pour lui, ça va être tout à fait normal.
Ouais.
Alors que nous, on a trouvé ça extraordinaire, mais voilà, c'est... Il y a quelque chose d'assez simple aussi, finalement.
Albatros, c'est l'histoire d'un commandant de brigade de la gendarmerie d'Étretat qui prévoit de se marier. Tout va bien dans sa vie. Il est heureux. Il a une petite fille. Il aime ce métier, même si c'est un métier difficile.
Il cloisonne quand même, parce que c'est ce qu'à un moment on explique. C'est un métier, il faut laisser
en dehors de la maison, avant de rentrer.
Parce que sinon, il faut beaucoup d'humour aussi. Hein. Mm. C'est comme les reporters de guerre ou les médecins. Voilà, c'est un médecin, si vous soignez un enfant depuis 2 ans, vous arrivez à l'hôpital le matin, il est mort. Si vous ne faites pas une blague, vous arrêtez ce métier. Hein, Et donc, il faut essayer de cloisonner. Et d'ailleurs, les gendarmes disent que l'uniforme, ça les aide beaucoup.
Quand ils mettent cet uniforme sur eux, ils entrent
C'est une espèce de...
Vous les connaissez bien, en plus, les gendarmes du coin.
Ouais, c'est par exemple, ils m'expliquaient, si vous allez ramasser un suicidé, vous faites ça... C'est le métier, c'est normal. Mais en revanche, si vous êtes en vacances avec votre famille et que vous êtes pas en uniforme, vous êtes quelqu'un de, en civil normal, là, vous allez être complètement bouleversé. Parce que vous voyez, alors que c'est paradoxal. Quoi.
Et là, l'histoire de ces gendarmes, finalement, c'est que c'est pas des gendarmes d'une métropole, c'est des gendarmes d'une petite ville, d'une région qu'ils connaissent bien, où tout le monde se connaît. Ils ont tissé des liens avec le temps. Et quand l'un des agriculteurs menace de se suicider parce qu'il n'y arrive plus, parce que on lui impose des chartes, des contraintes au quotidien, alors qu'il fait tout pour, il le dit, mes bêtes sont mieux logées que moi-même, elles sont plus heureuses que moi, et pourtant il reste là fidèle à son élevage. Il menace de se suicider. Ce gendarme essaye de l'en empêcher en lui tirant dessus une balle dans la jambe qui, hélas, va toucher l'artère fémorale et va entraîner sa mort. C'est la vie de ce gendarme-là qui est là pour sauver, pour protéger, qui va basculer. Une première tempête, comme je le disais tout à l'heure, dans sa vie, une deuxième tempête qui va venir peut-être lui permettre de reconsidérer sa vie, sa femme, son épouse, et qui sait d'envisager une autre deuxième partie de vie. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier ?
sens que t'aimes beaucoup le film. Hein.
Je ne sais parler qu'avec cœur des choses que j'ai aimées, sinon j'en parle assez mal. En réalité, vous avez raison.
Elle parle jamais de moi, du coup.
J'évite de parler de Daniel.
Si, mais en mal.
Et avec entrain.
Albatros est en salle mercredi. On vous invite chaleureusement à aller voir ce film de Xavier Beauvois. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau. Ah,
de tout temps, l'homme a pris des drogues afin de sublimer son quotidien qui est nul. À part à 20h20, parce qu'il y a plus belle la vie, il n'y a aucune raison de se réjouir. L'histoire de l'humanité se conjugue avec celle de la drogue. À la préhistoire, les types bouffaient des baies hallucinogènes. Ils étaient défoncés. Sans drogue, ils n'auraient pas dessiné de bison sur les parois de leur habitat. Ils auraient tout peint en blanc, à part un mur de la chambre du petit en bleu pâle, comme tout le monde. Je me suis documenté, j'ai questionné Daniel Morin, qui a connu les années drogue à Inter, quand Frédéric Lopez, de retour de rendez-vous en terre inconnue en Colombie, planquait de la coke dans le slip de Bruel avant de la revendre sur les quais de Seine. Alors sachez que la cocaïne, c'était par exemple bien. En France en 1850, c'était légal. On l'a trouvé sous forme d'élixir, pommade, cigarette. Tu m'étonnes que le Balzac par an sortait 1800 feuillets. Hein, ensuite, en 1898, les laboratoires Bayer sortent l'héroïne, qui est alors recommandée pour soigner la toux des nourrissons, qui en effet ne toussaient plus. Hein, à deux mois, ils zouquaient. Hein, ils n'avaient plus mal nulle part. Les gens les lançaient sur des troncs d'arbres. Les petits étaient en train de sourire. Hein, c'est cette année-là qu'a été créée la catapulte à nourrissons. Hein. Et en 2021, toutes les drogues sont dispo. Interdites, mais dispo. Moi, j'ai longtemps été accro aux miettes de thon à la tomate. Sinon, il y a l'herbe, la cocaïne, le crack, qui a fait beaucoup pour le bâtiment à Paris, parce qu'il a permis d'édifier des murs. La MDMA, qui fait que même dans la Beauce, on voit des montagnes. Et en ce moment, il y a le fentanyl, un antidouleur très fort. Hein, même si Valérie Pécresse vous taillade le torse avec une carte Navigo, vous sentez rien. 93 000 morts en 2020 aux États-Unis, rien qu'avec cette cochonnerie. Donc mon conseil est plutôt d'ingérer des noix de cajou. Hein, vous planerez moins et pour vomir, il faut en avoir au moins 350.
Ouais, au moins.
Donc la drogue fait des ravages. Mais bon, on fait le choix ou pas d'en prendre. Hein, sans drogue, figurez-vous, on vit bien. Prenez Pete Doherty, l'ex-rocker défoncé, il a tout arrêté. Eh ben, il vit à la cool en Normandie, il est allé toute la journée du camembert se détartir. Puisque le fromage sauve des vies. Jim Morrison, vous lui disiez, vieux, laisse tomber la chenouf, prends plutôt un Babybel. Il serait encore là à chanter Light My Fire dans les EHPAD, face à des mamies qui lui lanceraient leur bas de contention, en criant, tu le vois plus parce qu'il est entre les plis de ma peau, mais j'ai un tatouage Love You Jim sur le bras, bébé. Et pire que la drogue qu'on prend soi-même, il y a la drogue qu'on refourgue aux autres à leur insu. En soirée, vous mangez une part de 4 quarts, 7 minutes plus tard, vous battez des pieds en disant que vous êtes un dauphin, ce qui en type peut vous permettre de décrocher un job, hein, mais ailleurs, non. Et là arrive un abruti qui vous dit, non mais en fait c'est du keiko shit. Alors vous avez déjà appelé votre employeur pour lui dire que vous êtes un dauphin et que forcément même le télétravail va pas être possible, rapport au ratio taille des nageoires, taille des touches du clavier. Vous voyez ? Okay, d'accord. Il n'y a pas pire que d'être drogué par quelqu'un. Et en ce moment, tous les jours, il y a des infos qui remontent concernant la prise de GHB. La consommation explose. Or, le GHB, c'est la drogue du violeur. Alors moi, j'aurais appelé ça la drogue de la saleté de pourriture de lâche capable d'abuser d'une fille inconsciente, mais on dit violeur parce que ça va plus vite. En gros, la victime va dans un bar et tandis qu'elle se retourne pour dire à un ou une amie, je sais pas si t'as écouté la chronique de Pastureau ce midi, mais il a encore fait très fort, ou autre chose, hein, comme Pastureau, j'ai trop envie de voir son spectacle.
Ouais.
Et ben quelqu'un met dans son verre du GHB qui n'a pas de goût, hein, comme les navets ou les interviews de François Bayrou. Et la victime part dans un blackout qui dure des heures. Exemple à Poitiers, il y a tellement de cas que la mairie lance une campagne de prévention parce que des filles se réveillent à 4h du matin avec comme dernier souvenir un truc qui s'est passé à 22h. Ouais. Et on n'est pas sur un scénario à la Disney où la Belle au bois dormant subit un French kiss non consenti de la part d'un prince taré avec autour des petits oiseaux qui jouent de la flûte. Mmh. Si on a été drogué, c'est pour subir une agression sexuelle. Tu plonges pas un être humain dans le coltard pour jouer avec lui à la crapette. Mmh. Donc là, en 2021, les filles dans les bars en sont à devoir surveiller leur verre pour éviter de se faire violer. Je sais pas où est passé le dernier rempart qui nous protégeait de la barbarie, mais je ne veux pas vivre dans ce monde. Voilà, je vais appeler Pee-wee Plus pour qu'il me transfère chez les Toons. Filez-moi le numéro de la patte patrouille et on n'en parle plus. À Montpellier, on en est quand même à acheter des capotes de verre. Est-ce qui signifie pas que vous devez vous protéger avant de coucher avec un verre du Ralex, hein. Et s'il y a l'âge au fond, on vérifie bien que le verre est majeur. Non, c'est un film plastique qu'on pose sur le verre avec un trou pour la paille afin d'éviter que le violeur foute du GHB dedans. Super. Et après, on aura quoi? Le stérilet, la petite brique de lait. Attendez, Royaume-Uni, cette île morne où la seule couleur un peu fun est celle du tailleur de la reine. Tenez bon, madame. Il y a déjà une centaine de cas d'injection de GHB par le biais d'aiguilles parce que les verres devaient avoir trop de capotes, hein. Là-bas, il y a même un un boycott des bars et des boîtes par des milliers de jeunes qui disent on n'en peut plus de tout ça, de cette insécurité. Enfin, ils le disent en anglais. Hein. We can't stand this insécurité. No more. Enfin, ouais. Donc en France comme ailleurs, le constat est toujours le même. La femme dans la rue, elle se fait harceler. La femme dans une librairie, on lui dit vous êtes sûr, vous voulez pas le dernier Alexandre Jardin ? Bon, la femme dans un bar, on la drogue et on la viole quand elle est inconsciente, hein, parce que c'est tellement plus simple. Nos sociétés, c'est open bar sur la vie et la mort des femmes. Je sais plus quoi dire, à part que je vais vraiment appeler Piwi Plus pour voir si je peux vivre avec l'âne trop. Donc courage aux victimes et juste un truc, la présence de GHB dans le sang, ça dure uniquement 12 heures. Donc c'est dès que vous avez un doute, faites-vous tester le plus vite possible. J'arrive, âne trop.
Merci Tanguy Passion. Dans quel monde vit-on ? Un monde hors champ, ça c'est un livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Dominique Thierry, avec les dessins de Katel Müller, Katel que vous connaissez notamment pour sa BD récemment sortie sur Alice Guy ou Olympe de Gouges. Tous les deux en fait ont assisté au tournage et ils ont pu vous croquer, vous dessiner. Là j'ai un très beau dessin, un très beau portrait de Sylvie Piala et raconter un peu ce que c'est que cette aventure de cinéma, un tournage, cet endroit magnifique, la Côte d'Albâtre. Et raconter un peu votre démarche de cinéma, interviewer tout le monde. Je sais que y a peu de monde qui rentre comme ça sur des tournages. Pourquoi leur avoir donné l'autorisation à eux de venir ?
Moi, je pense que c'est le charme de Mick Thierry qui est devenu un voisin qui habite dans le village et de Katel. Mais j'ai toujours refusé les making-of. Il n'y a aucun making-of sur mes films. Mm-hmm. Je fais tellement de blagues débiles, des trucs. J'ai pas envie que ça soit filmé. Et puis
vous dire au lieu de crier moteur, vous criez Molenbeek.
Ouais, enfin ça des, voilà. des trucs comme ça.
J'ai quelques infos.
Des blagues idiotes et ça regarde que mon équipe et moi. Et puis souvent les gens qui font les making of se mettent au mauvais endroit. J'ai peur qu'ils dérangent mes acteurs. Enfin j'ai jamais voulu et là j'ai accepté. Il y a pas de caméra, il y a des dessins et qui sont très beaux. C'était une belle rencontre avec ces deux-là aussi.
Et j'ai la chance de figurer dans ce livre. Je suis citée comme les journalistes qui sont venus vous voir parce que quand je vous avais contacté il y a 2-3 ans pour parler de Michel Legrand, parce qu'on a cette passion en commun et vous le connaissiez très très bien, je vous ai demandé de venir à Radio France pour une interview et vous m'avez dit la réponse c'est je ne viendrai à Paris qu'entre deux gendarmes et menottés. Et voilà pourquoi j'ai pris ma voiture et je suis venue chez vous. Vous m'avez accueilli gentiment avec Marie-Julie. Absolument, un tagine. Je suis repartie avec des œufs du jardin. Je suis partie avec plein de choses. Il y avait Madeleine, toute petite aussi. Et c'est
vous
là que
demandiez où c'était tout ça. C'est elle qui les a échoués.
Oui, c'est moi qui ai tout pris. C'était un très très beau moment qu'on avait passé
alors,
ensemble.
Alors un truc à ne pas faire avec Michel Fourniret, par exemple.
Oui. Alors, échange. Je me suis renseignée avant sur Xavier Beauvois, avant de me lancer dans cette histoire-là. Albatros est en salle à partir de ce mercredi. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture ? Quelques questions.
Rien.
Eh bien,
rien du tout.
À part Albatros, il se passe une star vient d'annoncer qu'elle allait réaliser son propre biopic. De qui s'agit-il ?
Tanguy.
Bah non, son propre, je suis quand même pas si gothique.
Alors, je vous fais le portrait c'est robot triste. De cette star pour deviner.
C'est
40 ans de carrière.
Bah, c'est Madonna, 335
millions de disques, oui, en effet.
Il y a quel pour faire ça ?
C'est Madonna.
Elle est tellement égotique.
Elle est Nawel Manadi.
Non, mais ça veut dire surtout que personne ne veut faire son biopic. Quoi.
On a dit star.
Alors je ne sais pas si personne ne veut s'y coller. En tout cas, elle a décidé de faire cavalier seul. Elle dit que personne ne sait ce qu'elle sait et ce qu'elle a vu. Donc elle est la mieux placée pour se raconter. Pourquoi pas, c'est le principe de l'autobiographie.
Mais qui va jouer Madonna?
Je pense que c'est elle, sans doute. Elle va peut-être s'incarner à différentes périodes. Est-ce que le biopic, c'est un genre qui pourrait vous tenter, Xavier?
Moi, oui.
Bah oui, pourquoi pas.
Hein. Ouais, mais vous regardez beaucoup de documentaires. Je sais que vous êtes très très assidu, vous vous documentez sur plein de choses. Un documentaire sur qui, sur quoi, un biopic sur qui, sur quoi ?
Oh, d'instinct, j'aurais dit Churchill
ou
Chaplin, mais ça a déjà été fait.
Non, mais après, il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Mais
c'est
la Matt façon Pokora, de l'aborder. Y a pas eu
Et la productrice, elle en pense quoi du biopic, de ce genre-là ? Est-ce que c'est un genre qui est déjà un peu passé de mode ou pas ? Il continue d'en avoir, mais est-ce qu'on a le même goût toujours pour les biopics ?
Mais, c'est-à-dire que le biopic, il faut arriver à la fois à dépasser l'admiration et à raconter quelque chose d'universel sur un artiste, par exemple.
Oui.
Enfin, moi, je n'ai vécu que le Van Gogh, mais là, moi, j'en prépare un autre sur Thelonious Monk. Voilà.
Qui est-il ?
C'est Alain Gomis qui réalise le film.
Le jazzman ?
Oui. Le pianiste.
Est-ce qu'il y aurait un biopic envisageable, par exemple, sur Maurice Piala ? Est-ce que ça, c'est un sujet qui serait beaucoup trop proche?
Oui, moi, je ferais bien un soap, un truc 10 minutes tous les soirs de mes 20 ans de vie avec lui. Non, mais parce que ce qui est amusant chez Maurice, c'est l'ancrage, d'ailleurs, comme Xavier, dans la vraie vie, en fait. C'est pas du tout quelqu'un qui est. Et en même temps, si, mais c'est l'art de jamais s'ennuyer, c'est l'art de savoir vraiment, pour le coup, soi-disant ne rien faire.
Maurice Pialat considérait que Xavier Beauvois était le plus proche de lui en tant que réalisateur.
C'est une question.
Non,
il l'a
je crois
dit.
Qu'il l'a dit.
Il l'a dit.
Il l'a dit.
Bah alors très bien.
C'est Dominique Besnard qui disait ça.
Ah oui, parce qu'il l'a dit à Dominique.
Mais pour un biopic, pourquoi pas demander à Jérémy Régnier, il doit savoir faire.
Ah, pour les biopics, quoi, il a déjà donné. Autre question, quel est le point commun entre le prochain Marvel Doctor Strange, le nouveau Thor et le prochain Indiana Jones?
C'est Harrison Ford.
Il y a des femmes.
Ils sortiront pas au ciné.
Et c'est une question de sortie. Les sorties ont toutes été repoussées, absolument repoussées, sans forcément expliquer toutes les raisons. La crise sanitaire a malmené le calendrier des sorties, mais
puis les gens ont du mal à revenir ensemble.
Ouais, réouverture des salles.
Moi, j'ai été obligé de reporter
difficile.
Mon stade de France.
Eh ben oui, je le sais. Alors, la pandémie a définitivement changé quand même un petit peu le métier et le rapport aussi aux salles, à la sortie, tout simplement, au-delà du cinéma, à la sortie. Est-ce que vous êtes optimiste? Pour la suite, Sylvie, par exemple.
Bah écoutez, on va laisser passer le 3 novembre déjà, et laisser les gens se précipiter voir Albatros.
Pour aller voir Albatros, ouais.
Oui, c'est compliqué, la reprise, c'est compliqué. Les gens, moi j'ai, entre guillemets, réenterré mon père il y a 15 jours, parce que mort pendant le Covid, donc 12 personnes, etc. Donc faire un truc un peu plus joyeux, si on peut dire. Et donc je parlais avec des gens qui avaient entre 80 et 85 ans, quoi. Et qui étaient des gens qui allaient au cinéma tout le temps.
Oui.
Et qui me disent, alors, mon fils m'a mis Netflix. Et là, alors là, House of Cards, The Crown, c'est génial. Et j'avoue que je vais moins... Voilà, donc...
Il y a d'autres
visages. Là, c'est notre socle. Hein. Ouais. Je dis pas entre 80 et 85, mais enfin, c'est quand même...
Oui, c'est un
public. Des gens qui ont toujours été au cinéma et qui avouent qu'ils y vont moins... Ouais. Oui, et puis le masque, c'est compliqué. Vous passez la journée masquée au bureau ou dans le métro. Le soir, vous avez peut-être envie un tout petit peu de...
Confort.
Voilà, d'autres choses. Mais bon, on va voir les vacances, là, tout ça. Enfin, je pense que... Parce que c'est pas une question d'offre. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'offre en ce moment.
Ouais.
Donc,
c'est juste d'élan, de retrouver la salle, de retrouver le plaisir d'y aller.
Oui, je pense qu'il faut... le conseil, c'est faut un peu se forcer, voilà. Non, faut un peu se forcer parce que ça reste tellement joyeux de partager quelque chose dans une salle avec
tout le monde.
C'est
vrai, faut s'en souvenir.
Il faut vivre aussi parce qu'on peut se faire livrer un restaurant chez soi, on peut se faire livrer des livres chez soi, on peut voir des films chez soi. À la limite, on est très bien à Fleury-Mérogis, quoi. Il y a pareil. Non, mais l'idée, c'est quand même de voir un match de foot, par exemple. Une finale de
dans un
n'importe
stade.
Quoi chez soi, ça n'a rien à voir avec le fait de le voir avec des supporters. Le cinéma, c'est pareil, et le restaurant, c'est quand même très agréable. Voilà, il y a
donc vous l'avez compris, allez au restaurant, allez au cinéma,
il faut vivre,
aller
au musée.
Il faut vivre un moment.
On ne va pas rester chez soi comme ça.
Quand on n'aime pas les gens, rester chez soi, c'est quand même sympa.
Ouais, mais...
Non, mais même si on ne les aime pas, il faut prouver qu'on les aime pas.
Il faut aller leur dire.
Il faut aller se souvenir pourquoi on ne les aime pas. En gros, c'est ça l'histoire. Mercredi, en salle, Albatros de Xavier Beauvois. Qu'est-ce que vous réserve les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a déjà un projet sur lequel vous travaillez, Xavier? Vous avez déjà amorcé l'écriture de quelque chose?
Oui, j'ai deux projets dans la tête. Enfin, c'est encore en rapport avec la mer. Mais,
Votre élément?
J'en parle jamais, mais vous, c'est pour vous faire plaisir.
Ah, merci.
J'ai un projet sur le Queen Mary 2. Ben, c'est très compliqué. Et un autre projet sur un type qui va faire le Virtual Vendée Globe Challenge dans son jardin. Il va le faire en vrai, mais pour de faux, quoi.
Oui, oui.
Et il y a Jean Le Cam que j'ai rencontré qui a accepté de jouer dedans.
C'est génial.
Et vous, Sylvie, côté production?
Ah ben voilà.
Vous le découvrez?
Non, moi j'ai eu la chance de traverser la période terrible pas trop mal. Enfin, même si Albatros devait sortir en avril, parce qu'on était en compétition à Berlin, donc c'était en février déjà. Et voilà, donc j'ai des films qui sont au montage, et des films qui sont terminés. Un film de genre de Paco Plaza qui s'appelle La Abuela, c'est-à-dire la mère grand, et qui était à San Sébastien. C'est le réalisateur qui avait fait Rec.
Ah oui, l'angoisse totale. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu peur, ça m'a traumatisée pendant des mois.
Moi, c'est les cages d'escalier où j'arrivais.
Alors celui-là, ça ne va pas vous arranger.
Ah ouais, d'accord,
surtout si vous avez une grand-mère, en fait.
Moi, Rec, ça va, mais Shrek, par contre, ça m'a bien déstabilisé.
Et un premier film avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte, d'une jeune femme qui s'appelle Céline Deveau et qui vient de la... de l'animation, qui avait gagné le César avec Repas Dominical, la voix off de Vincent McKaigne. Et ça, c'est au montage. Il y a aussi un petit personnage d'animation dans le film, voilà, qui... Bon, voilà.
De beaux projets.
Et un film de Jean de Niclou qui est terminé aussi, qui est en fin de montage.
De Guillaume Niclou, voilà. C'est encore, ça fait partie aussi des fidèles.
C'est ça.
De l'équipée Sylvie Piala. Albatros en salle ce mercredi avec Jérémy Régnier, Marie-Julie Maille, Lumineuse, Victor Belmondo, Iris Brie, Geoffroy Séry, Olivier Pécry et Madeleine Beauvois, notre petite poulette. mais oui, vraiment, il est temps. J'ai adoré ce film, je le répète, je l'ai dit peut-être trop souvent, mais vraiment, c'est très sincère. Il est temps de présenter quelques excuses rapidement, Daniel Morin.
Alors désolé pour tous ceux qui voulaient passer un petit week-end à Étretat et qui, en entendant que sur la plage, les gens tombent de la falaise toutes les 10 minutes, que les gendarmes vous déglinguent l'artère fémorale à n'importe quel moment et que si on aime la navigation, il y a des remorqueurs qui vous défoncent les voiles à grands coups de canon. Ah oh non, les amis, pas de panique, c'est juste quelques péripéties qui arrivent dans Albatros, le film de Xavier Beauvois. Sinon, si vous avez peur, il y a toujours la grande motte. Désolé pour la famille de Jérémy Régnier qui a appris ce matin qu'il les abandonnait. Eh oui, qu'il faisait dorénavant partie de la famille Beauvois pour continuer travailler avec. Alors j'ai parlé de votre chagrin avec Xavier, grand prince. De temps en temps, il vous le louera. Désolé pour tous ceux qui, après avoir entendu Sylvie Piala, cherchent désespérément un club où trouver des femmes qui posent des foulards devant des hommes maquillés pour aller s'envoyer en l'air.
Ça m'intéresse.
Oui, je comprends. Oui. Alors laisse les coordonnées sur le site de l'émission. Évidemment, Nagui donnera ses meilleures adresses.
Merci Daniel, merci à tous autour de la table. Merci Sylvie Piala et Xavier Beauvois d'être venus nous voir pour nous parler de ce très beau film Albatros. Demain, dans la Bande Originale, on recevra la dessinatrice Catherine Meurice pour son album La jeune femme et la mer. Passez une très 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 belle fin de journée sur France Inter.
Aujourd'hui en question, la mobilité électrique avec Dacia.